Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama. Cinérama.
Cinérama. Qu'est-ce que Cinérama. C'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama. Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission qui dure 30 minutes pendant lesquelles nous allons parler de cinéma évidemment. 6 films aujourd'hui pour ce sommaire, 6 films qui sont déjà dans les salles évidemment. Et nous allons pouvoir jouer aussi un petit blind test ultra facile parce que tu vas nous parler d'un grand compositeur, Guillaume.
Oui, je vous parlais de John Williams à l'occasion de la sortie d'un documentaire à son honneur. Et puis ton jingle est d'autant plus à propos vu que je vais vous parler du dernier Robert Zemeckis.
Et oui, puisque le générique est fait avec Retour vers le futur. Et toi, Sophia, 2 films.
Oui, le premier, un film indépendant, Good One. Un film américain. Et puis pour le second, autre ambiance, on part à Gaza en 2018 quand il était encore possible d'y tourner un documentaire.
Et puis moi je vais vous parler de 2 films. Alors il y aura le Gladiator qui est tant attendu hein, puisque c'est le blockbuster qui sort. Mais nous allons commencer cette émission avec En tongs au pied de l'Himalaya. Une mère doit se ressaisir pour accompagner son enfant autiste.
Par ici s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah mais avec joie.
Je voulais faire un petit point avec vous avant la rentrée. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à cause de ces troubles du comportement. Un petit peu.
On a pu commencer un petit traitement pour traiter son hyperactivité.
Okay.
Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus apaisé.
Ah oh bah non, mais là, ça n'a rien à voir.
Non, rien à voir.
La semaine dernière, nous saluions un film avec Alexandra Lamy. Et bien cette semaine, autour d'un film avec sa sœur Audrey, En tongs au pied de l'Himalaya. Alors avant même de parler du pitch de cette comédie dramatique de John Wax, qu'on se figure l'image du titre, quelqu'un qui arrive en tongs pour gravir la plus haute montagne du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu ça. Hein, des gens qui ont des tongs, notamment... quelqu'un qui s'apprêtait à gravir un volcan que moi-même je m'apprêtais à gravir, qui faisait à peu près 2500 mètres, et bien cette personne était en tongs. Donc il y a des gens qui font vraiment ça. Combien de mètres, je ne sais pas.
Ton fils, il est autiste comment? C'est un génie? Il compte des allumettes ou que dalle?
Non, il compte pas spécialement des allumettes.
J'ai pas cassé mon lit. J'ai pas bouché les toilettes.
On est plus ou moins séparés avec Fabrice.
Non, c'est pas possible. Tu vas faire quoi maintenant? 40 ans, un gamin handicapé, pas de boulot.
Alors déjà, j'ai que 39 ans.
Bah excuse-moi de m'inquiéter, moi je suis pas sûr que de vivre avec ton frère soit un environnement très stable pour le petit.
Alors Pauline est la maman d'Andrea, 6 ans et demi, un petit garçon alors formidable à qui on a diagnostiqué un TSA, soit un trouble du spectre autistique. Il n'est pas déscolarisé, toujours en grande section de maternelle, mais ça pourrait arriver qu'il soit déscolarisé hein, si rien n'est fait pour l'accompagner. Pour cela, il a besoin de ses parents, sauf que ceux-ci sont séparés. Alors d'un côté, il y a le père bien rangé, puis de l'autre, Pauline, bordélique, mais bien consciente qu'elle doit permettre à son fils de rester scolarisé plutôt que de rejoindre l'hôpital de jour. Adapté du seul en scène autobiographique de Marie-Odile Weiss, cette comédie prend le temps de décrire le processus quotidien mis en place pour entourer le garçon. Alors ça passe par des victoires, mais des moments de défaite et de découragement. Il y a les parents, mais aussi l'éducatrice spécialisée, indispensable béquille pour les parents, et puis une vraie bouée hein, pour l'enfant. Alors encore faut-il que ses parents jouent leur rôle, car il n'y a pas de miracle. S'il s'agit de gravir l'Himalaya, il faut effectivement être armé, bien équipé et conscient du trajet à accomplir et de la durée de la tâche.
Moi je suis là pour qu'ensemble on mette en place des protocoles qui permettront à Andrea de progresser. Voilà. Si toi, ton côté, tu fais pas l'effort, moi, tout ce que je fais, ça sert à rien et je perds mon temps.
C'est juste que là, c'est pas facile, quoi.
Tu veux un Xanax? Non, attends. Elle est déjà alcoolique, tu vas pas en plus la mettre dans les cachetons?
Alors s'il n'y avait que ce petit garçon avec les troubles autistiques, mais même la mère hein, n'est pas indépendante. Comme son frère, elle vit au crochet du père qui est indifférent aux problèmes de sa fille et peu enclin à aimer un petit-fils pour peu eh bien, que ce petit-fils soit problématique. Alors il y a donc plusieurs luttes à mener, c'est ce qui va écarter le long métrage du film à sujet qui voudrait nous parler de la difficile prise en charge des enfants autistes. Même si le thème est abordé, mais finalement le réalisateur s'intéresse moins à l'enfant qu'à son entourage, ceux qui doivent l'éduquer et l'accompagner comme ceux qui le jugent. Audrey Lamy se sentir très bien dans ce rôle de mère qui va devoir se remettre en question et trouver les ressources pour être auprès de son fils. Si la comédie surgit, c'est dans tous les autres aspects que ceux de la maladie. Donc ce film, En tongs au pied de l'Himalaya, est en salle depuis le 13 novembre. Un voyageur de 25 ans rencontre des jeunes palestiniens de son âge. Nous parlons de voyage à Gaza.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Le réalisateur franco-italien Piero Usberti se rend donc à Gaza en 2018 pour 2 séjours. 3 mois sur le territoire au total, notamment grâce à son père, un professeur universitaire, qui est à l'origine d'un programme d'échange entre universités italiennes et palestiniennes. Gaza, sous blocus israélo-égyptien depuis 2007, est un territoire coincé entre Israël et l'Égypte depuis que le Hamas a pris le contrôle de l'enclave. Ce blocus impose de sévères restrictions de mouvement aux Gazaouis et limite les ressources, renforçant la pauvreté et l'isolement économique d'un des territoires les plus densément peuplés au monde, avec, initialement, près de 2,3 millions d'habitants vivant dans un espace de 365 km². Alors, c'est à peine plus grand que Marseille, hein, disons, c'est un peu plus petit que le lac Léman, et tout en long. Lors des 3 mois passés là, Usberti filme la jeunesse Gazaoui entre résilience et désillusion dans les coulisses d'une résistance silencieuse qu'on ne nous montre jamais. En septembre 2023, avant les attentats donc du 7 octobre, la post-production du film s'achève, laissant sans le savoir un souvenir poignant de tout un tissu territorial désormais détruit à plus de 80%. On y voit des scènes de vie, aujourd'hui disparues, des lieux réduits en poussière, hein, que ce soit le champ de fraises de Beit Laya au café Al-Baka du bord de mer, des lieux emblématiques où les jeunes se retrouvaient pour échanger sur leur rêve de liberté. Le film s'ouvre sur la mort du photojournaliste Yasser Murtaja, tué par balle malgré son badge presse, hein, lors d'une marche commémorative. Sa cérémonie de funérailles, hein, rythmée dans le film par des percussions assourdissantes, donne d'emblée le ton de l'étau oppressant dans lequel est pris le peuple de Gaza. Usberti nous transporte dans cette prison à ciel ouvert à laquelle on accède via 2 portes, hein, qu'on emprunte rarement pour sortir. Celle d'Erez au nord, à la frontière israélienne, celle de Rafah au sud, à la frontière avec l'Égypte. À l'ouest, la mer, gardée par les navires de guerre israéliens, et à l'est, un mur barricadé, lourdement armé. À son arrivée, Usberti fait la rencontre de Sarah, une jeune femme qui travaille dans un centre d'entraide aux femmes. C'est elle qui l'emmène de lieu en lieu, de rencontre en rencontre, dévoilant un quotidien où l'humour se mêle à la survie sous la surveillance omniprésente des drones israéliens, partie intégrante du paysage sonore des locaux qui les appellent les moustiques. Voyage à Gaza capture aussi la beauté de ce territoire assiégé, des couchers de soleil, aux liens chaleureux entre habitants. À travers des témoignages, on comprend en fait que Gaza est assiégé non seulement par Israël, mais aussi par le parti nationaliste du Fatah et la fraction islamiste du Hamas. Usberti dresse ainsi un portrait déchirant, sensible et nuancé, où la beauté côtoie une injuste brutalité dont l'infamie ne devrait laisser personne indifférent. Un documentaire essentiel pour faire un pas de côté par rapport aux rhétoriques médiatiques à la Bolloré. Il nous invite à nous rapprocher avec humanité d'un peuple qui ne mérite pas de subir l'annihilation qu'on laisse advenir. Souvent trop occupés à nous auto-accuser d'antisémitisme ou d'islamo-gauchisme pendant qu'un peuple entier, sa culture et sa mémoire disparaissent sous les bombes, je recommande vivement d'aller visionner ce film.
Voilà, et il a un succès public et puis aussi critique. Hein. Nous parlions de Voyage à Gaza de Piero Usberti, jeune réalisateur documentariste. Le temps qui passe et s'efface, nous parlons du dernier film de Robert Zemeckis. Nous parlons de Ir.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
C'est fou ce que le temps file vite. Hein?
C'est fou, oui. Take a straight and stronger course to the corner of your
life. Hier, sous-titré « Les plus belles années de notre vie », marque non pas le retour de Robert Zemeckis au cinéma, alors quoique après l'horrible Pinocchio pour Disney+, hein, mais le grand retour de Zemeckis sur grand écran. Alors en raison du Covid, un sacré sorcière avait vu sa sortie sacrifiée en France et balancée sur HBO Max, et Pinocchio avait été le seul remake en live-action à sortir directement sur la plateforme Disney+. Bon, alors ce n'était pas si grave tant le résultat était catastrophique, le seul exploit de la production résidant dans le fait que le cahier des charges aberrant de la firme a permis à Zemeckis de signer son son unique mauvais film de toute sa carrière. Heureusement, Here est un moyen de reprendre le contrôle total de sa créativité et, comme d'habitude, le cinéaste a su prendre et développer un sujet à la hauteur de ses ambitions narratives et formalistes de conteur. Here se base sur la BD conceptuelle de Richard McGuire. Alors sa particularité est de proposer toujours le même endroit, aux mêmes dimensions dans les cases, depuis l'âge des dinosaures jusqu'au 23e siècle. Ainsi, nous pouvons assister à une multitude d'actions diverses, des tranches de vie piochées un peu partout dans l'histoire, pourvu qu'elles se soient passées dans cet endroit bien précis. Cet endroit va voir une maison s'ériger et un salon va devenir la scène principale du théâtre de la vie au cours du 20e siècle. Alors régulièrement, les actions se télescopent, alors que le gros de l'image est réservé par exemple à une action ayant lieu en 1970, on peut assister dans un coin de l'image à l'action qui se déroulait en 1789. Alors si le film en reprend le procédé principal et quelques touches ici et là, le gros du travail d'écriture de Zemeckis et d'Eric Ross, son compagnon derrière Forrest Gump, fut de créer de toutes pièces l'histoire principale et centrale du film, celle du couple incarné par Robin Wright et Tom Hanks, traversant une bonne partie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors ils ont aussi enlevé tout ce qui se passe après 2024 pour que le film reste une expérience immersive dans un univers que nous connaissons et qui nous est en grande partie familier. Et c'est normal, car ce qui va être majoritairement mis sous les projecteurs, c'est la famille.
C'est ici que l'on veut être et pas là-bas.
Tu sais, si ça te fait plaisir, tu peux rester toute la nuit ici.
Joie, surprise, frustration, espoir, douleur, amour, mais aussi deuil. À travers plusieurs scénettes, c'est tout le spectre de la vie qui est radiographié par Zemeckis. Alors son attraction pour Here n'a rien de surprenant pour qui connaît sa filmographie et ses obsessions. Here nous parle du temps, le temps si cher à Doc Brown de Retour à le futur, mais aussi celui qui consume les femmes de la mort où va si bien, dont le postulat de base a été entièrement repris par Coralie Farja dans le bien moins réussi The Substance, sorti ironiquement le même jour que Here. Alors c'est le temps qui consume aussi déjà Tom Hanks dans Seul au monde et l'artiste de The Walk. C'est également un regard en biais sur son pays et ses évolutions à travers les yeux du citoyen moyen, comme encore Tom Hanks dans Forrest Gump ou le quatuor mené par Nancy Allen dans Crazy Day, assistant aux coulisses de la première représentation en direct à la télévision des Beatles aux États-Unis, séquence ici également montrée à la télévision.
Je crois que je pourrais rester toute ma vie ici.
C'était chez nous. C'est ici qu'on a vécu.
Et bien sûr, Here est un défi narratif et technologique assez incroyable qui va nous tenir doucement en haleine pendant plus de 100 minutes avec un montage aussi prodigieux que facétieux. Alors grâce à une technologie bluffante, les acteurs se jouent à tous les âges de la vie, comme dans le Pôle Express où l'inévitable Tom Hanks est interprété par moins de 7 personnages, dont un père et son fils. Here est une magnifique réussite qui nous rappelle la plus importante des leçons. Vous êtes ici, l'important se passe maintenant. Croyez en vous, profitez de vos proches et faites de votre vie la plus douce des histoires.
Eh bien voilà, Here est en salle déjà depuis le 6 novembre. Nous parlons maintenant de Gladiator, 16 ans après le premier opus, le fiston de Maximus fait des siennes.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Le jour où un esclave a pu se venger d'un empereur.
Alors, je n'ai pas voulu voir Napoléon en raison du caractère biaisé de l'entreprise avec tous ses arrangements avec l'histoire, mais j'ai bien voulu me prêter au visionnage de Gladiator par Ridley Scott pour donc un Gladiator 2 qui réunit Paul Mescal et Pedro Pascal quand le premier opus misait sur Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Alors ça tombe bien, j'adore Pedro Pascal. Jamais beau gosse ni bodybuildé, cet acteur a vraiment tout pour plaire choisissant bien ses films. Quant à Paul Mescal, je ne l'avais jamais vu. Mais il n'a rien à voir avec son père Maximus, tant au niveau du physique, de la carrure que de l'expression. Car il s'agit de cela dans cette suite, c'est son fils Lucius qui doit prendre le relais des aventures qui se déroulent dans les arènes car lui aussi, prisonnier, devient un gladiateur redouté.
Attends-tu là. Foule. C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. Le Colisée. Parce qu'ils ne croient tous qu'en une chose, le pouvoir.
Alors j'avoue ne pas me souvenir du premier Gladiator, que je n'ai vu qu'une fois, donc il y a très longtemps, ne considérant pas l'essai comme un grand film, à défaut d'être un élégant divertissement, ce qui est le cas aussi de Gladiator 2. Et c'est dans une veine très politique, en revanche, que s'inscrit cette suite, à différents degrés. Il y a d'abord la description d'une Rome sanguinaire, impérialiste évidemment, avec deux frères empereurs, dont l'un est vraiment frappadingue, deux inconscients, volages, despotes, qui usent de leur pouvoir. Mais il y a aussi ceux qui veulent les renverser, comme la fille de Marc Aurèle, propre mère de notre héros, qui a dû abandonner son fils pour le garder en vie. Et il y a aussi d'autres candidats au pouvoir qui estiment que la politique, eh bien, c'est user de la force comme de stratagème. Si bien qu'il n'y a pas que des combats dans l'arène dans Gladiator 2, mais également des grandes tirades, des messes basses, des complots, des trahisons, des soumissions, des pactes, de quoi nourrir et dynamiser le récit qui se focalise tout de même sur un guerrier de Numidie, donc, qui perd son pays et sa femme dans le même temps, et qui, une fois à Rome, enrôlé en tant que gladiateur, eh bien, n'a qu'une idée, c'est de se venger.
Rome doit tomber. Je n'ai qu'à la pousser un peu.
Qu'est-ce que le rêve de Rome ? Si notre peuple n'est pas libre ?
Alors, si le film peut être bavard, il ne ménage pas ses effets en introduisant le film d'ailleurs avec un assaut romain imparable venu de la mer auquel correspond une bataille navale créée dans les arènes, ce que je n'avais jamais vu au cinéma. Enfin, je pense que ça n'existait pas sous Rome, hein, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on faisait une espèce de ballet aquatique comme ça. Il y a quelque chose d'épique que Ridley Scott tente de choyer en ne lésinant pas sur l'action. Les batailles ne sont pas décevantes, offrant des duels qui ne durent pas outrageusement en longueur, précisément parce que l'action n'est pas forcément le cœur du film. Le film a beau jeu de nous faire croire que Rome pourrait être plus juste pour les citoyens. Alors, il y a quelque chose qui sonne creux. Ridley Scott fait le choix d'y croire et de nous emmener vers les espoirs d'un héros qui doit surmonter son passé pour conquérir l'amour du peuple et le pouvoir, et puis, eh bien, tant qu'à faire, changer le monde. Côté mise en scène, il n'y a pas grand-chose à dire. Les vannes sont ouvertes, hein, il y a suffisamment de figurants, de sang, de bourre-pif pour qu'on en ait pour son argent. Les sentiments ont aussi leur place, tout comme les enjeux politiques, donc au risque que ceux-ci passent parfois pour extravagants. Mais c'est Rome, alors pourquoi pas ? Voilà donc pour ce Gladiator 2 qui fournit aussi de belles images. J'avoue que je l'ai vu en IMAX et j'étais assez conquis.
Mais du coup, est-ce que Mégalopolis est-il un meilleur péplum que Gladiator 2 ? Parce que là, vu ton résumé, on dirait que tu nous parles un petit peu du film de Coppola. Là.
Ah parce que Ridley Scott ne va pas dans l'Uchronie ou je ne sais quoi. Enfin non, il a fait aucune anticipation.
Paul Mescal n'arrête pas le temps en fait.
Non, rien de tout cela. Gladiator 2 est en salle depuis le 16 novembre. Nous parlons maintenant d'un documentaire sur un grand compositeur de musique de film, c'est John Williams, et ce n'est pas lui qui a fait la musique de Gladiator 2.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Au moment où on se demande plus que jamais à quoi sert Disney Plus, à quand pointe des séries de télé-réalité comme Les secrets scandaleux des mères mormones, c'est pas une blague, hein. Voici le contre-exemple qui fait plaisir et donnerait presque envie d'y souscrire, même si ses géniteurs sont ironiquement à l'opposé du spectre de la plateforme. Alors, Laurent Bouzereau est un nom très connu des amateurs de support physique, puisqu'il est l'auteur d'innombrables bonus et interviews des plus grands noms du cinéma américain, en particulier un certain Steven Spielberg. Il n'était donc pas étonnant, hein, de le voir prendre des rênes d'un documentaire consacré à son compositeur phare, hein, celui qui l'a accompagné toute sa vie et qui a su mettre en musique et donc contribuer à des chefs-d'œuvre désormais intemporels, hein, qu'il soit réalisé par Spielberg comme Les Dents de la Mer, produit par lui ou encore réalisé par ses proches collaborateurs comme un certain George Lucas et sa quelque peu connue Guerre des Étoiles.
The first thing I played for Steven on this piano was this. And I played that for him. He said, "What is that? What are you going to do?"
Musique by John Williams ne pouvait bien sûr pas être complet, car on parle d'une carrière s'étalant sur plus de 70 ans de dévotion à la musique. L'histoire de Williams ne commence pas au cinéma, et c'est justement ce qui est le plus appréciable ici, découvrir en quelque sorte le John Williams caché, hein, du très grand public. Le génie musical qui refuse toute forme moderne pour écrire sa musique est filmé amoureusement par celui qui a tant contribué à l'essor du DVD avec sa passation de savoir et rappelle presque tristement l'importance de tels compositeurs pour l'histoire du cinéma à une époque où les mélodies, symphonies et surtout les thèmes sont abandonnés au profit d'un sound design intrusif et souvent barbare. Music by John Williams, c'est le pont entre ce que l'esprit humain a créé, entre autres, de plus beau, hein, la musique dite classique, et la manière dont elle s'est invitée, hein, dans un divertissement de masse pour lui donner ses lettres de noblesse tout au long du XXe siècle. Le document est à cette image, hein, aussi divertissant que pédagogue, hein, en plus de nous rappeler les nombreuses grandes heures de bonheur devant nos petits et grands écrans. Alors c'est riche en histoire, en anecdotes, en émotions et en grâce, à l'image du vénérable monsieur qui va sur ses 93 ans. Que dire si ce n'est merci maestro.
Ce documentaire réalisé par un Français sur John Williams nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de sa vaste filmographie. Il a été nommé 56 fois aux Oscars. Bon, longue carrière, mais quand même. Voilà, il a remporté 5 Oscars. Donc, le principe, 5 extraits de musique de film, évidemment. Alors, c'est très facile, c'est histoire de parcourir vraiment sa carrière. C'est parti. Alors c'est trouvé évidemment.
C'est Indiana Jones.
Mais oui, les aventuriers.
Ouais, pardon, les aventuriers de l'arche perdue, pour être plus précis.
Ouais, ouais. Film de 80 de Steven Spielberg, pour qui il a dû réaliser toutes les bandes sonores.
Quasiment je pense.
Allez, alors j'ai choisi des réalisateurs tous différents pour ce blind test. Deuxième extrait. Oui, évidemment.
C'est le thème de Superman pour le film de Richard Donner.
Oui, sorti en 78, troisième extrait de ce blind test consacré à John Williams. Alors là, il y a un petit piège, mais c'est pas vraiment un piège. C'est trouvé, c'était le piège que tu as contourné.
C'est Un violon sur le toit.
Oui, film de Norman Jewison, sorti en 71. Alors pourquoi je l'ai mis et pourquoi j'ai dit que c'était un piège? C'est parce que ce n'est pas lui qui a composé la musique, mais en revanche, il a eu l'Oscar de la meilleure partition de chanson et adaptation musicale. Il en a fait l'adaptation. Allez, on revient à ses compositions, cette fois-ci avec un quatrième extrait. C'est trouvé.
C'est Harry Potter.
Oui, à l'école des sorciers, film de 2001 de Chris Columbus. Je crois qu'il a réalisé après toutes les. J'ai pas vérifié, mais je crois qu'il a fait.
Si je ne me trompe pas, jusqu'au troisième.
Ah d'accord.
Après, il a passé la main, mais oui, il a
c'est
sur les trois
ça,
premières
vidéos. Ok. Allez, on termine par un collector. Quand même aimer un film peut-être pour apprécier cette musique. C'est trouvé,
oui.
Sophia.
Oui, La guerre des étoiles.
Oui, de George Lucas de 1977. À noter que là, c'était une version qu'il a interprétée en tant que lui, chef d'orchestre, donc dans un théâtre. C'est pour ça que vous avez pu entendre des petits applaudissements et pourquoi c'était une musique très nourrie, en tout cas avec beaucoup d'instruments. Voilà, ainsi s'achève ce blind test consacré donc à la filmographie de John Williams à l'occasion de Music by John Williams, un documentaire diffusé sur Disney+. Nous terminons cette émission avec le sexisme ordinaire. Nous parlons de Good One.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Ça, c'est clair.
Le film d'India Donaldson a tout du bon petit film indie bien fagoté pour plaire dans des festivals indépendants comme Sundance, où il a été, sans surprise, chaleureusement accueilli en début d'année. Ce genre de film avec son esthétique sobre, ses bandes son rock, indé et ses personnages profondément ancrés dans le quotidien rappelle la veine de production introspective comme Lady Bird de Greta Gerwig, avant Barbie, bien sûr. À l'image de Saoirse Ronan, qui incarnait donc Lady Bird, une héroïne en quête d'elle-même, tout en affrontant les failles de sa relation avec sa mère, Good One plonge dans le regard complexe d'une jeune fille, Sam, jouée par une jeune première, Lily Collias, face aux imperfections d'un parent, ici son père. Sam, 17 ans, accepte à contre-cœur de partir randonner avec son père dans les montagnes des Catskills dans l'état de New York. Ce qui devait être une excursion à quatre se transforme en trio lorsque le fils de Matt, un ami de son père, refuse de venir. Une situation qui ne manque pas de mettre en lumière les différentes tensions sous-jacentes entre les personnages. La randonnée en pleine nature n'est pas sans rappeler le cheminement intérieur du personnage de Wilde, de Jean-Marc Vallée. Alors c'était Reese Witherspoon qui l'incarnait. Où la solitude en fait et l'immensité des paysages permettent de révéler les vérités personnelles et les désillusions de chacun. Présentée comme la good one, celle qui endosse la maturité et prend soin des autres, Sam se retrouve dans un rôle de soutien matériel et thérapeutique même envers les deux hommes, aux prises avec la pénibilité de leurs existences respectives. Mais après une soirée un peu trop arrosée, Matt franchit une ligne et installe un malaise durable. C'est à ce carrefour que le film rappelle des réalisations telles que Captain Fantastic, où les enfants doivent naviguer les idéaux et les failles des adultes, et où les rôles établis muent face à des figures paternelles complexes et parfois défaillante. Donaldson choisit d'éviter la surenchère dramatique, illustrant la désillusion de Sam par des parties pris scénaristiques plus subtiles. La caméra capte avec précision la tension latente qui mène à la rupture, alternant entre plans larges où les personnages sont comme perdus dans l'immensité de la nature et plans resserrés qui révèlent leur isolement psychologique. Le film se construit sur cette oscillation pour que Sam se libère progressivement du poids d'être la fille parfaite. Le résultat, un coming of age inversé, où se dessine alors un retour à soi pour redevenir l'enfant protégé qu'elle devrait pouvoir être. Alors voilà, il s'agit d'un film qui ne laissera peut-être pas une marque indélébile, mais qui a au moins le mérite de traiter un sujet très présent au cinéma actuellement, en l'occurrence les violences sexuelles, mais sans être trop cru, avec une jolie sobriété.
Good One est en salle depuis le 13 novembre.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, nous aurons deux interviews, nous écouterons Michel Hazanavicius pour La plus précieuse des marchandises, film en compétition à Cannes, et puis toi Guillaume, tu auras vu un film.
Je reste en musique aussi, vu que je vais vous parler de Prodigieuse.
Et nous parlerons avec les deux réalisateurs, le père et le fils. Et puis toi Sophia.
Pour ma part aussi un film qui était en compétition à Cannes, Diamant Brut, un film français, encore un coming of age.
À la semaine prochaine.
Is Cinerama.